Bonjour, bienvenue à l'épisode 44 de ITcast du 9 juin 2017. Notre invité aujourd'hui est Nicolas Bonnet, MVP, grand spécialiste de la mobilité et de l'identité dans la région Aix-Marseille. Nicolas nous parle aujourd'hui de gestion de la mobilité avec Microsoft Intune, avec entre autres plein d'infos intéressantes sur les appareils Android, sur la gestion des applications mobiles et sur le fameux nouveau portail de Microsoft Intune qui va forcément vous intéresser si vous avez déjà pratiqué le produit. Tout de suite, on se retrouve avec Maxime Aissy-les-Moulineaux et Nicolas, près d'Aix-en-Provence. Et bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de ITcast, Maxime.
Bonsoir à tous.
Alors, il faut préciser, Maxime, qu'on est tous les deux dans les locaux de Microsoft,
ouais.
Dans une petite salle de réunion qu'on a squattée pendant quelques instants. Et on a installé notre nouveau matériel tout neuf et tout clinquant, mais voilà, qu'on a du mal à faire marcher.
Non, ça marche bien maintenant. Je suis sûr que vous nous entendez très, très bien maintenant.
Voilà, en tout cas, on espère. Et on a un invité aujourd'hui qui est en ligne avec Skype et qui s'appelle Nicolas Bonnet. Et Nicolas, tu es ingénieur système et réseau chez Scala à Marseille. Et bien, bienvenue Nicolas.
Tout à fait. Merci Pascal. Merci à vous deux pour l'invitation d'abord. Effectivement, je suis ingénieur système réseau chez Scala. J'interviens sur tout ce qui est mobilité avec mobilité chez Microsoft, hein, donc avec la suite EMS. Sur tout ce qui est Windows 10, tout ce qui est Activatory et Azure. Donc voilà, ça fait quand même un gros panel de projets sur lesquels j'interviens et voilà, donc c'est assez sympa.
Ah, c'est un peu mon pendant technique dans le sud.
Donc Maxime, je suppose qu'avec Nicolas, on va parler quoi, identité.
Aujourd'hui, on va parler principalement de gestion de la mobilité.
Mobilité, d'accord.
Mobilité surtout. Surtout avec notamment Intune. Voilà, quelques sujets intéressants, des nouvelles annonces. Voilà, Nicolas nous parlera de tout ça.
Ok.
Ouais, Intune qui était d'ailleurs une des briques, hein, de la suite EMS, hein, qui est effectivement composée de plusieurs choses, qui offre une solution complète d'ailleurs sur la gestion de l'identité, la gestion de la sécurité, la gestion des documents et effectivement de la gestion de la mobilité.
Avant d'attaquer les sujets de Nicolas, est-ce que tu as des informations communautaires à
Ouais, alors très, très rapidement, hein, on peut faire un petit tour sur les événements passés et à venir. Alors j'ai eu la chance fin mai d'organiser un événement, donc AOS Grenoble, à Supinfo Grenoble, où donc tout s'est très bien passé. On a fait un super événement avec pas mal d'inscrits, donc beaucoup de clients. Quelques étudiants aussi, mais voilà, pour un premier événement sur Grenoble, voilà, très bel accueil, une belle aide aussi des étudiants de Supinfo Grenoble pour tout organiser, donc voilà, un super événement à Ouest Grenoble, à renouveler sûrement dans la région. Après, donc, on a eu le SharePoint Saturday Monaco le 3 juin, il n'y a pas très longtemps, et deux événements qui arriveront, un AOS Toulouse le 20 juin, et je serai présent à l'AOS Genève le 22 juin, voilà. Chez nos amis suisses.
Je trouve que tu vas un peu vite là, à Monaco.
Monaco.
Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont testé l'hélicoptère ?
Non, moi j'y suis non. Pas allé. Je suis pas allé au SharePoint Saturday Monaco, mais ça fait partie de ma to-do de faire de l'hélico là-bas. Ouais.
Cool, donc on fait un coucou à nos collègues de AOS et du SPS.
Ouais. J'ai fait aussi un webcast, je vous en ai parlé dans un précédent ITcast, un webcast donc sur Windows 10. Le but c'était de parler en fait des nouvelles menaces qui arrivent et dont la suite EMS couvre une bonne partie de ces différentes menaces. Le but c'était dans ce webcast de parler des fonctionnalités de Windows 10 pour couvrir tout ce qui était détection des comportements anormaux et des vulnérabilités sur le système. Notamment avec Windows Defender ATP, Advanced Threat Protection, et aussi comment faire en sorte qu'en tant qu'entreprise, j'évite que les données sortent de mon poste de travail de manière non maîtrisée avec Windows Information Protection, qui est le nouveau nom de Enterprise Data Protection. fait, ça permet de taguer du contenu d'entreprise et derrière de faire en sorte que cette donnée d'entreprise reste sur le poste ou ne va pas n'importe où dans notre réseau d'entreprise. Ce qui peut par exemple éviter de sortir un fichier d'un OneDrive et de l'enregistrer sur une clé USB ou sur un partage réseau par exemple.
Ce qui permet de séparer les données d'entreprise des données personnelles sur un poste personnel, en fait.
Sur un poste personnel, et on peut aussi l'appliquer sur un poste d'entreprise pour éviter les fuites sur des médias amovibles comme des clés USB, des partages réseau, ce genre de choses. On peut couvrir les deux aspects.
Ouais. Ok.
Voilà, donc un webcast assez sympa à faire. Il y a eu quelques participants. L'enregistrement est disponible sur YouTube. On vous mettra le lien si vous souhaitez y accéder. Voilà pour les quelques activités communautaires. Après, je pense que cette partie-là va un petit peu se calmer, hein, les vacances arrivant bientôt, mais ça ne nous empêchera pas de refaire 2-3 ITcast.
Bah justement, les choses se calmeront naturellement pendant l'été, donc on aura le temps de faire des choses. Ok, donc c'est tout pour les actualités communautaires.
C'est à peu près tout. Ouais. Bon, on en reparlera au fil de l'eau si jamais il y a des informations qui reviennent.
Ok, d'accord. Donc Nicolas.
Oui.
Tu voulais nous parler de mobilité et en particulier de systèmes, pas forcément que Microsoft d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant.
Effectivement, parce que Intune offre l'avantage de pouvoir gérer en fait pas que du Microsoft, hein, puisqu'on peut gérer à la fois de l'iOS et de l'Android.
Est-ce que tu peux peut-être rappeler ce que c'est qu'Intune pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors, oui, effectivement, Intune, c'est une plateforme de MDM, hein, donc Mobile Device Management. Donc finalement, j'ai une flotte de mobiles, tablettes, smartphones, ordinateurs portables, qui n'est pas membre du domaine. Et je souhaite finalement gérer cette flotte de mobiles. Je vais devoir le faire au travers d'un outil, qu'on appelle Intune par exemple, et qui va me permettre effectivement de pouvoir pousser des règles, pousser des applications, interdire par exemple l'accès si mon périphérique est routé, donc vraiment pouvoir finalement protéger les données d'entreprise, mettre à disposition de l'utilisateur les ressources d'entreprise. Alors ressources, j'entends par boîte mail, VPN, certificat, profil Wi-Fi, etc., etc. Donc on a deux façons de le gérer, soit en mode SaaS, donc au travers du portail web, soit en de la CCM, et donc on ajoute en fait à la fonctionnalité de gestion de mobilité. À SCCM, le grand avantage, c'est que l'équipe qui gère SCCM sait gérer les postes internes. Ça ne change rien pour elle. Elle va gérer de la même façon la partie mobilité. Il faut savoir qu'en plus, finalement, quand je prends des licences EMS, donc c'est bien EMS que j'ai dit et pas Intune. Donc quand je prends le pack complet, Microsoft me fait cadeau les 4 clients SCCM. Donc au prix de la licence SCCM, c'est un gros cadeau que Microsoft fait. Donc on peut gérer à la fois les postes mobiles et les postes internes, hein, puisque la licence est une licence utilisateur et qui est allouée pour 5 devices, donc qu'ils soient mobiles ou qu'ils soient internes. Donc il faut juste bien sûr que la licence soit attribuée à l'utilisateur, et après comme ça on peut déployer de la CCM très facilement et surtout gratuitement, enfin quasiment gratuitement puisqu'il y a la licence quand même mutuelle.
Tu as en tête l'ordre de grandeur du tarif pour un utilisateur et 5 devices
En prix public, hein, en prix public, sachant qu'aujourd'hui je ne l'ai jamais vu le prix public, je crois que c'est de l'ordre de 3 à 4 euros dans ces eaux-là à peu près, hein, par utilisateur. Donc si on divise par 5, ça fait un tout petit prix pour les devices. Sachant qu'aujourd'hui, chez tous mes clients, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que j'ai vu des prix beaucoup plus bas. Certains clients ont, par exemple, 23 euros à l'année par utilisateur. Donc, c'est des prix qui sont vraiment dérisoires. Alors, évidemment, d'un client à l'autre, ça peut changer. En gros, on va être de l'ordre, en moyenne, 4 euros et quelques par utilisateur. Et ça, c'est vraiment un prix public. Donc, après, en fonction de la taille d'entreprise, du contrat que vous avez, ça va vraiment varier.
Cool.
Donc effectivement, moi il y a un sujet que je voulais parler, c'était la gestion des périphériques Android. En fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était assez problématique de gérer les périphériques Android parce que bah, finalement j'avais pas beaucoup de paramètres que je pouvais configurer. Je pouvais pas configurer de profil Wi-Fi, pas de possibilité de faire pareil pour les profils email, sauf si j'avais un Samsung. Donc évidemment, quand j'arrivais sur un projet, que la personne me disait je veux gérer de l'Android et qu'elle me disait bah, j'ai un Nokia ou j'ai un. Enfin, pas un Nokia, mais un. Un autre préfet autre que Samsung, c'était effectivement assez compliqué. Elle lui expliquait que ce qu'il pouvait faire, bah, c'était avoir l'inventaire et faire un wipe.
Ouais, effectivement, les paramètres MDM sont beaucoup plus complets sur ce qu'on appelle Samsung Knox. Ouais. C'est vraiment la plateforme de gestion des paramètres par Samsung, quoi. Et effectivement, on a beaucoup plus de paramètres quand on a un Samsung que quand on a un Android non Samsung.
Ouais, tout à fait.
C'est dommage.
Donc ça, oui, c'était fortement dommage. Donc ça, c'est vrai que ça a été vraiment corrigé. C'est quelque chose qui manquait cruellement. Je pense qu'on a tous fait remonter à Microsoft et Microsoft a bien fait les choses puisqu'ils ont vraiment travaillé sur ça. Et aujourd'hui, en fait, on a au travers, avec Google, ils ont travaillé Google également d'ailleurs, hein, mais on a aujourd'hui Android for Work. Donc c'est juste un profil qu'on ajoute en plus sur le périphérique. Donc on va avoir deux profils sur le device. Vraiment un profil perso, où l'utilisateur va avoir finalement ses applications perso, voilà, son fonctionnement perso. Et à côté de ça, on va avoir vraiment un profil pro qu'on va pouvoir cloisonner assez bien. Donc du coup, les données d'un monde ne viennent pas perturber l'autre monde. Alors, surtout, on pense surtout au monde pro vers le monde perso. Hein. C'est toujours problématique de retrouver un plan d'hélicoptère ou une donnée secrète sur Twitter ou sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social. Donc, vraiment pouvoir cloisonner ça et surtout aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de pousser un profil Wi-Fi, de pousser un profil mail. C'est quelque chose qui manquait cruellement sur Android et le gros avantage c'est que bah, ça n'a aucun coût supplémentaire pour l'utilisateur, enfin pour l'entreprise, hein. Ouais, parce que c'est compris dans la licence, c'est complètement gratuit, il suffit juste d'avoir un compte Microsoft, hein, excusez-moi, un compte Google pardon, pour activer Android for Work. Voilà, le gros avantage c'est qu'une fois de plus ça s'intègre très bien dans les dernières versions des CCM, ça s'intègre très très bien. On va pouvoir récupérer également les applications qu'on aura achetées sur Google Play. Voilà, donc on a une liste de paramètres qui est juste assez sympa maintenant à mettre en place parce que on va vraiment pouvoir aller très très loin dans le paramétrage des périphériques. Donc je pense qu'effectivement plus ça va aller et plus les nouveaux paramètres vont arriver. Voilà.
Alors, est-ce que tous les smartphones sont compatibles Android for Work?
Alors, oui, parce qu'en fait, ça arrive à... Il faut minimum, je crois que c'est Android... alors, de mémoire, hein. De mémoire, je crois que c'est Android 5. Ça commence à partir d'Android 5. Donc, dès lors que vous avez Android 5, ça fonctionne. Alors que vous soyez sur Samsung, sur... Je suis pas un pro Android, donc j'ai pas tous les devices, mais voilà, enfin, vous avez un device LG, une tablette LG ou une tablette Sony, n'importe, vous avez l'Android 5, et bien effectivement, vous allez pouvoir utiliser en fait Android for Work. Donc sachant qu'en plus, ça utilise, alors dans un premier temps, le portail entreprise classique tel qu'on le connaît. Donc pour, une fois de plus, hein, pour l'utilisateur, ça change strictement rien puisque il va enrôler son device de la même façon. Il y a 2-3 opérations supplémentaires, mais qui sont finalement automatisées, parce que ça va installer dans un autre portail, un portail pro. Mais voilà, donc ça sera bien tagué en plus dans les icônes, parce qu'il y aura vraiment, un schéma, enfin, une petite icône particulière qui se rajoute.
C'est une mallette, hein, je crois, une mallette grise, ouais, un truc comme ça.
C'est ça. Gris ou orange, après ça dépend aussi, enfin bon, la couleur à la limite. Effectivement, on voit qu'effectivement c'est vraiment le profil pro et qu'à côté on a un profil perso. Donc bon, il est vraiment, je pense qu'il y a aujourd'hui tout intérêt à l'utiliser quand on voit toutes les fuites de données qu'on peut avoir. Aujourd'hui, le plus gros risque pour une entreprise, c'est vraiment la partie mobilité parce qu'on a de plus en plus de devices. On a de plus en plus de tablettes, de smartphones, de portables, donc et tout ça finalement contiennent tous ces équipements-là contiennent des données d'entreprise. Alors ça peut être un simple mail, hein. Un mail et une pièce jointe peut contenir des données. Donc voilà, c'est toujours gênant que ces données soient sur l'extérieur sans protection. Et donc voilà, aujourd'hui on va pouvoir vraiment protéger l'équipement, les données, les applications. On va pouvoir faire beaucoup de choses sur la partie Android, et finalement avec un coût qui finalement égal à zéro, un coût supplémentaire pardon, qui est égal à zéro, hein, puisque c'est inclus dans votre licence. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment tout intérêt à l'utiliser. On voit effectivement qu'Android a pris quand même une part de marché qui est importante, ce qui veut dire que potentiellement il y a énormément de devices Android. Enfin, quoi, moi c'est ce que je croise souvent, énormément d'Android et très peu d'iOS par rapport au prix, hein, principalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai un client qui me dit ouais, j'ai mis l'Android, mes parents, je le gère pas, ou je gère pas avec aucun MDM. C'est quelque chose qui m'embête, dans le sens où aujourd'hui ça veut dire que le client a potentiellement des données qui sont extérieures, non sécurisées. Donc derrière je lui vole sa tablette, je lui vole son équipement, je peux accéder à ses données, récupérer ses emails, récupérer ses contacts. En fonction du poste, c'est plus ou moins gênant. Un fichier client, c'est toujours gênant de se le faire voler. Des données propres au métier d'entreprise, hein, pareil, c'est toujours gênant de se le faire voler. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'on voit avec les différentes attaques qu'on a pu avoir, aujourd'hui, il ne faut pas se dire ok, je suis à l'abri, moi je risque rien, c'est les autres. Je pense qu'aujourd'hui, on risque tous. Il faut être vraiment très vigilant sur ce qu'on fait. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes clients, ça sert à rien de mettre des millions d'euros sur la table pour mettre des pare-feux dans tous les sens si on reste ouvert entre midi et deux. Aujourd'hui, on voit encore, malheureusement, des postes qui, la personne s'en va déjeuner, ou s'en va fumer, ou s'en va en pause, et l'ordinateur reste allumé, et la session, pardon, reste ouverte. Et ça, c'est problématique, parce que derrière, c'est-à-dire que je rentre, la session est ouverte, donc je peux accéder à ces emails, à toutes ces données.
Il y a le classique mot de passe écrit sur un post-it aussi.
Voilà, aussi, le mot de passe, c'est complètement le mot de passe est écrit sur le post-it ou quoi. Donc c'est vrai que, ou sur le clavier, ou sur la table, ou alors on a juste à demander à ses collègues, généralement on a le mot de passe parce que tout le monde connaît, le service entier connaît le mot de passe. Donc voilà, je pense qu'on a tous eu ce problème-là. Et aujourd'hui, se dire non mais c'est bon, ça arrivera aux autres, moi de toute façon j'ai un pare-feu qui me protège. Ouais, je suis vraiment pas sûr que votre pare-feu protège, sachant qu'effectivement 9 attaques sur 10 sur le premier de l'interne. Bon, il suffit que sur ma tablette je sois allé sur un hotspot qui va bien, ou que je me suis amusé à télécharger des jeux sur un site pas obligatoirement exotique, enfin un peu exotique plutôt, pas obligatoirement super, ça veut dire que potentiellement je peux faire entrer des VR ou n'importe quelle merde sur mon réseau local. Et donc derrière, les conséquences... moi, j'ai vu des centres hospitaliers où on est en train de travailler, d'un coup, toutes les données sont cryptées. Alors, sur un centre hospitalier, c'est gênant.
Vu le fameux WannaCry qui a infecté beaucoup d'hôpitaux, notamment en Grande-Bretagne.
Bien sûr.
Et voilà, principalement dû à ça. Hein.
Ah oui, bien sûr. Et voilà, donc là on voit vraiment qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de gérer à la fois la flotte interne et externe. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'avait pas besoin de le faire parce que c'était peut-être pas autant démocratisé. Alors quand je dis quelques années, c'est plusieurs dizaines d'années peut-être. Un peu moins d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est vital. C'est vital, on n'a pas le choix.
Puis ça fait partie aussi de la stratégie Microsoft qui est de dire maintenant je fournis plutôt un service et des applications, et mon utilisateur va accéder à ces services, à ces applications, quel que soit l'appareil, qu'il soit un appareil d'entreprise, un appareil perso, un appareil mobile, peu importe, on accède à ce service. Et donc à partir du moment où on introduit des appareils mobiles, effectivement il faut pouvoir être un minimum capable de les gérer, de les monitorer, de les contrôler à distance, quoi.
Bien sûr, de toute façon, la mobilité, la gestion de la mobilité, finalement, comme tu dis, Maxime, hein, c'est pas juste de savoir que se connecte sur une tablette LG ou une tablette. Non, c'est dire, ok, bah, effectivement, je dois gérer ces applications, je dois gérer les données qu'elles contiennent. Et finalement, quand on sécurise l'ensemble, c'est-à-dire la tablette, les applications et les données qu'elles contiennent, effectivement. Ouais. Et on gère finalement les applications comme un service. On le voit avec Azure AD, on le voit avec plein de choses, hein, où en fait tout devient, tout devient un service en fait finalement. On met à disposition des utilisateurs ces services-là, qu'ils soient applicatifs, voilà, identité ou autre, bien sûr.
Tu as eu concrètement des projets avec des clients sur des flottes d'Android gérées par Intune?
Oui, j'en ai eu un. Donc là, j'y retourne dans pas longtemps chez le client, mettre Android for Work. Donc j'ai eu 500 mobiles à gérer chez un gros client. Donc on a fait un POC, effectivement, bon, ça se passe bien. On le gère depuis SSL, donc là on était assez content. Jusqu'au moment où, où je lui dis, bon, bah, ok, on va voir les règles qu'on fait. Donc je lui montre les aspects sécurité. Donc je lui dis, voilà, on va vraiment pouvoir sécuriser le mot de passe, l'accès à la plateforme. Finalement, comme si je suis sur un PC. Aujourd'hui, sur un PC, on fait une GPO. On dit, bah, attention, le mot de passe va être complexe. Il doit faire 12 caractères, voilà, alphanumérique. Enfin, donc je définis ma politique de sécurité. Bah, finalement, Android, en fait, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait. Donc l'avantage du client, c'est qu'il pouvait gérer, avoir un inventaire, pouvoir gérer la sécurité, pour faire un wipe en cas de perte ou de vol de la tablette. Mais il était quand même assez frustré dans le sens où il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas bloquer le NFC ou bloquer pardon, le Bluetooth ou n'importe chose. Ou n'importe quel composant en fait de mon périphérique. Donc là, j'y retourne le mois prochain, donc juillet, pour lui mettre en place effectivement Android for Work, pour qu'il puisse aller beaucoup plus loin au niveau de la gestion de ses périphériques Android.
D'accord.
Donc, ouais, le plus gros que j'ai fait, c'est 500 devices.
D'après ce que tu me dis, donc c'est des appareils qui appartiennent à l'entreprise.
Complètement. Aujourd'hui, la majorité que j'ai, c'est même pas la majorité, c'est tous les clients que j'ai fait en tout cas, c'était, ouais, allez, à 99%. Allez, il y a peut-être un ou deux clients que j'oublie, mais à 99%, c'était vraiment une flotte mobile fournie par entreprise. Et qui est mis à disposition de l'utilisateur. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à gérer, hein, parce que du coup, là, c'est la suppression. Du coup, je supprime complètement le device puisqu'il n'est pas censé avoir des données personnelles. Après, il faut rester un minimum humain et un minimum intelligent. Mais voilà, j'ai une facilité qui est beaucoup plus grande en fait en faisant un wipe complet parce que c'est un device corporate. C'est pas du BIOD, donc où là par contre c'est plus compliqué parce que ça appartient à l'utilisateur. Là pour le coup, je ne peux pas l'interdire de mettre des données. Et là, je ferai plutôt un wipe sélectif où je supprimerai que ce qui appartient à l'entreprise. Bon, les deux discutent. Aujourd'hui, c'est vrai que je rencontre beaucoup plus du corporate que du personnel.
D'accord. Et là, je vais faire un sondage rapide parmi l'assistance. Vous avez des téléphones perso ou entreprise?
Moi, pro.
Perso. Moi, j'ai rendu mon téléphone pro parce que déjà, je déteste jongler entre deux téléphones. Entre un téléphone perso et un téléphone pro. Donc j'utilise mon téléphone perso pour le pro. Voilà.
D'accord. Et donc en se connectant aux données professionnelles, tu as des contraintes?
Alors les données professionnelles sur mon téléphone, j'ai quoi? J'ai mon profil email, ma boîte. J'ai mon OneDrive. Et très honnêtement, c'est à peu près tout.
Voilà. Peut-être OneNote.
OneNote, oui, mais après, c'est mon cas personnel. J'utilise pas trop OneNote sur un smartphone.
D'accord.
J'utilise principalement quand même sur ma tablette ou mon PC. Parfois, quand je reçois des pièces jointes, j'utilise aussi la suite Office. Mais sinon, effectivement, mon usage professionnel sur mon téléphone, c'est quand même 90% des mails.
D'accord. Bah, moi, c'est pareil. Hein, c'est un Android... personnel donc connecté au mail Microsoft, et donc je récupère nativement la politique de sécurité qui m'impose un mot de passe à 6 chiffres, un chiffrement complet de l'appareil.
Ouais. Alors pour ce genre de choses, on n'est pas obligé d'utiliser un MDM. Hein. Il faut savoir que Exchange On-Prem, Exchange Online ont des paramètres Active Sync qui nous permettent de configurer déjà de manière minimale un téléphone en mettant un code PIN.
C'est très minimal.
C'est très minimal, mais
c'est un sous-ensemble commun. C'est le PPCM. C'était le plus petit commun de tous les systèmes. Et c'est vrai que le MDM est plus intéressant parce qu'il prend en compte les spécificités des Android et d'iOS, etc.
Bien sûr. L'avantage, c'est que l'ActiveSync, c'est multiplateforme. Donc, à partir du moment où on arrive à connecter son client natif, ça fonctionnera, quelle que soit la plateforme.
Et tu as un gros avantage également, c'est la partie application. C'est-à-dire qu'un MDM, tu mets en place un store d'entreprise alors sous forme de l'application publique. Ou sous forme d'APK ou IPA, ça dépend sur quelle plateforme tu es. Là où effectivement avec l'ActiveSync, une fois que tu es sorti des paramètres de sécurité, tu peux pas faire grand chose. C'est déjà bien, hein, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que ça reste limité. Aujourd'hui.
Attention Pascal, ne te fais pas mal. En fait, si on reprend en termes de... Puis il y a un tableau qu'on utilise vachement avec Nicolas dans nos présentations qu'on a fait ces derniers temps. En gros, c'est un tableau de fonctionnalité avec première colonne Exchange ActiveSync, deuxième colonne MDM Office 365, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même nativement dans Office 365 un MDM intégré qui se base sur une partie des paramètres ActiveSync et une partie des paramètres Intune, comme l'accès conditionnel, ce genre de choses. Les rapports, etc. Et après, donc, on a vraiment la partie fonctionnalité Intune pure qui apporte justement beaucoup plus de fonctionnalités du MDM et du MAM aussi. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais on peut déployer aussi des stratégies sur les applications compatibles sans forcément s'enrôler dans Intune. Et ça, c'est vachement pratique. Par exemple, on veut dire, j'ai mon OneDrive sur mon téléphone. Par contre, je veux mettre un code PIN à l'ouverture de l'application. Ça, je peux très bien le faire avec une stratégie MAM pour éviter les fuites de données à l'intérieur d'une application. Et elle s'appliquera quel que soit l'appareil, qu'il soit enrôlé ou pas dans Intune, soit un appareil pro ou un appareil perso. Ça, c'est vachement pratique et ça fait aussi partie des forces d'un MDM et aussi des forces d'Intune parce que Microsoft a fait l'effort d'intégrer un certain nombre de stratégies d'application sur toutes les applications Office et Microsoft. Donc, on a OneDrive, Skype, Word, Excel, PowerPoint, Power BI, Remote Desktop, etc.
Oui, on a besoin de plus d'applications et c'est vrai que l'avantage, c'est ça. Typiquement, j'ai un buffer qui ne se connecte jamais et je crois que ça s'est arrivé, ça arrive assez fréquemment. Hein, il n'est jamais connecté au domaine parce que la personne est toujours à l'extérieur ou parce que dans une centrale nucléaire ou autre. Typiquement, j'ai besoin quand même de gérer l'accès aux applications. Je mets un MDM, ou des applications gérées au travers effectivement de
Intune.
Ah, le mot m'échappe.
Du MAM ou de Intune.
Voilà, merci. Du MAM. Le mot m'échappe.
Mobile Application Management.
Tout à fait. J'avais un trou, j'arrivais plus à trouver le mot. Effectivement, au travers du MAM, c'est vrai que c'est vachement pratique. J'ai pas besoin que le public soit obligatoirement connecté au réseau local pour pouvoir gérer le comportement de l'application. Alors, si ce n'est juste même le copier-coller, ça suffit, mais déjà rien que le copier-coller, interdire le copier-coller, une application gérée, une application non gérée, déjà, ça reste quand même énorme.
Ouais. Alors, il y a une petite annonce aussi concernant justement la gestion de ces périphériques en Android depuis Intune et notamment pour assister les utilisateurs avec TeamViewer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Bien sûr. Donc, effectivement, la première version de ce connecteur est apparue il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, quelques mois. Et ça permettait effectivement au travers de l'agent Intune, donc on a deux façons de le gérer en fait, au travers d'un MDM où on installe un agent Intune. Donc là, quand on installe l'agent Intune, on avait la possibilité en fait d'intégrer, de connecter plutôt un compte TeamViewer Pro et finalement de dire ok, mon périphérique qui se situe au Brésil. Moi je suis à Paris ou à Marseille, ok, c'est pas grave, il y a une connexion internet, l'agent Intune est installé sur mon poste, je vais me connecter à distance.
Voilà, ça c'était fonctionnalité pour PC à la base.
Tout à fait. Donc effectivement, Microsoft a maintenant fait évoluer ce connecteur-là, et maintenant je peux le faire également sur sur l'Android. Donc moi, c'est vrai que c'est demande que j'ai eue. Alors, j'en ai pas eu des tonnes, hein, mais j'ai un gros client sur dans la région parisienne qui m'a dit, ben voilà, moi aujourd'hui j'ai du TeamViewer Pro. Alors c'est au début de Microsoft Intune, et finalement je souhaiterais me connecter sur mes périphériques. Alors c'était Windows à l'époque, qui sont dans mes magasins, et les magasins sont pas obligatoirement raccordés via du MPLS. Et donc, du coup, ils vous souhaitaient en fait supprimer TeamViewer Pro et avoir un MDM. Ou alors associer le TeamViewer Pro à son MDM. Et c'est vrai qu'à l'époque, ben, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, malheureusement. Donc, on a dû trouver d'autres solutions qui étaient beaucoup plus complexes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité de prendre la main sur le périphérique et finalement, qui se situe à côté ou qui se situe de l'autre côté de la planète, il suffit d'une connexion Internet et puis je peux m'y connecter. Alors ça a un coût évidemment, puisque ça nécessite quand même un abonnement à TeamViewer Pro, qui n'est pas obligatoirement donné, mais qui finalement, à l'échelle d'une entreprise, n'est pas si onéreux que ça.
Puis il faut déployer aussi l'application TeamViewer sur les smartphones. Bon, ça, on peut utiliser le MDM, c'est l'avantage. Est-ce que tu sais s'il y a besoin de configuration supplémentaire sur cette appli TeamViewer ? Parce qu'il va falloir quand même activer la licence ou lier la licence à un utilisateur sur TeamViewer. Il y a un profil particulier dans Intune, par exemple, pour le faire ?
Alors, je sais pas, parce que sincèrement, je l'ai encore jamais mis en place. Parce que souvent, en fait, on a d'Android ou de l'iOS et très peu de Windows. En tout cas, moi, j'ai eu très peu de Windows, j'ai surtout eu l'iOS et Android. Mais de ce que j'ai vu, non, c'est pas énorme en configuration. Enfin, il faut associer évidemment le compte au niveau de l'agent Intune. À l'époque, c'était ça. Pour la partie Android, non, j'ai vraiment pas encore.
Je t'en veux pas parce que l'annonce a été faite hier. Mais demain, tu installes TeamViewer, d'accord ?
Demain, c'est parti.
Il a triché.
Demain, j'achète. Ce soir, j'achète l'abonnement et demain, je teste. Promis.
C'est ça. Non, mais je testerai de mon côté aussi parce que ça m'intéresse. J'avais testé, comme tu disais, Android for Work, où tu voyais vraiment, en fait, et c'était un peu déroutant d'ailleurs pour les utilisateurs, où on voyait vraiment cette différence entre le pro et le perso, où on avait tout qui était segmenté. Des fois, on avait même des applications en double sur la machine, du coup. Pareil pour le portail d'entreprise Intune, où on avait deux versions, et il fallait utiliser, du coup, maintenant le portail d'entreprise Android for Work pour que ça fonctionne. L'avantage aussi, c'est que côté Google, on avait un store qu'en tant qu'administrateur, on pouvait approuver les applications déployées via cet Android for Work. Et donc, vu qu'on peut lier l'environnement Android for Work à Intune, on a, on va dire, le meilleur des deux mondes pour gérer ça de manière centralisée. Une petite annonce, enfin, c'est pas une annonce parce que ça date. Alors, Silverlight, tout le monde connaît Silverlight.
Voilà, je dis Silverlight et ça fait rigoler Pascal.
On va parler des choses qui fâchent, donc je vais me taire.
Silverlight, bon, je pense que tout le monde connaît la durée de vie et l'engagement de Silverlight. Le but, c'est de s'en débarrasser. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus.
Non, c'est bien Silverlight. Enfin, une connexion de un quart d'heure, c'est pas mal.
Alors, pourquoi je parle de Silverlight ? Parce que, en fait, le portail d'administration, l'ancien portail d'administration Intune, est fait en Silverlight. Et maintenant, ça ne fonctionne plus sur Edge, ça ne fonctionne pas sur Chrome, ça ne fonctionne pas sur Firefox. En gros, ça ne fonctionne que sur IU. Quoi. Et je pense que tout le monde doit connaître à peu près cette nouveauté. Et tu pourras nous en dire un peu plus, Nicolas. Microsoft est en train de porter un maximum de fonctionnalités Intune dans le portail Azure, enfin.
Tout à fait. D'ailleurs, mon tenant Intune a migré il n'y a pas très longtemps de ça, donc j'ai eu la chance de pouvoir tester la nouvelle plateforme. Sincèrement, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'avant, on avait une plateforme qui était sympa, mais bon, on allait boire un café et on revenait, il fallait tout se re-authentifier, enfin tout recommencer. Donc c'est assez... assez pénible. À côté de ça, on avait une plateforme Azure qui était juste formidable. Enfin, moi, je trouve que la nouvelle plateforme, pas l'ancienne, mais vraiment la nouvelle est vraiment super parce que elle est super ergonomique, elle est facile à prendre en main. Voilà, c'est franchement assez intuitif. Et donc c'est vrai que quand j'ai appris effectivement il y a un petit moment que Microsoft travaillait sur le fait de pouvoir mettre fusionner en fait les deux plateformes, je crois que c'est une super idée. Donc effectivement, je l'ai testé sincèrement, j'en suis très satisfait. Je retrouve cette fluidité que j'ai avec Azure quand je crée une VM ou quand je fais de l'Azure AD ou une des fonctionnalités d'Azure, parce qu'il y en a tellement que de toute façon je ne les ai pas toutes testées. Hein. C'est vraiment très très complet comme plateforme. Donc oui, non, voilà, c'est vraiment une super plateforme. Alors, le gros avantage, c'est que je peux me connecter avec Edge, je peux me connecter avec Chrome, je peux me connecter avec Firefox, si on a envie. Donc ça, déjà, c'est un gros avantage, hein, parce que, IE, c'est bien, mais bon, voilà, quand on a goûté un peu à Edge, IE, c'est compliqué. Alors, on n'a pas encore toutes les fonctionnalités, elles sont en train d'arriver. En fonction des tenants, on aura plus ou moins. Moi, je sais que j'ai un client, par exemple, voilà, il peut faire de l'Android, il peut faire de l'Android for Work, mais il peut pas faire d'iOS encore. Donc voilà, ça arrive. Au fur et à mesure, ça peut prendre.
Sur mon tenant, je peux faire à peu près tout. Ce qui me manque, je crois, c'est effectivement la partie Android for Work et la partie Windows Information Protection. Parce qu'on peut configurer Windows Information Protection. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir mon webcast.
Alors moi, j'aime.
Donc, moi, mais, effectivement, ouais, ouais. Il manque une partie des fonctionnalités. Bon, c'est encore marqué preview en gros, mais pour l'avoir testé, au final, on crée une règle dans l'ancien portail, on la retrouve bien, on peut l'éditer correctement dans le nouveau et inversement. Donc, effectivement, ouais, ils ont fait quand même un bel effort d'intégration.
Franchement, même les migrations, enfin. Alors évidemment, il y a toujours des problèmes. Je veux dire, enfin, une migration sans problème, ça n'existe pas. Mais, enfin, au vu du nombre de comptes qu'il y a eu à migrer et qui sont en cours de migration, d'ailleurs encore, hein, je dirais qu'on peut dire que la migration s'est très bien passée. Moi, la mienne, typiquement, voilà, j'ai tout récupéré, mais vraiment tout. Et sur mes deux tenants, sur mon tenant VMS, enfin, Intune VMS 5 ou VMS 3, les deux, voilà, les deux tenants tels que je les avais laissés, je les ai retrouvés. Voilà, donc franchement, je pense que c'est une grosse avancée parce que déjà on n'a plus qu'une seule console, là où avant on avait une pour Fusion 5, une pour Intune, une pour Azure. Là aujourd'hui, on a à la limite la console Fusion 5, enfin office.microsoft.com pour la gestion des comptes, des domaines, tout ça. Et on a effectivement la partie Azure pour tout ce qui est cloud, tout ce qui est mobilité. Donc sincèrement, je pense que c'est une très 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 bonne chose d'avoir fait ça. Moi, j'ai testé la partie Azure AD dans le nouveau portail Azure. Et sincèrement, pareil, voilà, on retrouve assez rapidement nos petits. Ça marche super bien. Je trouve que ça marchait encore même mieux que l'ancien. Après, ouais. Ça, c'est plus.
Alors, il faut savoir que Microsoft mit plusieurs choses en fait, hein, dans ce nouveau portail. Alors, il y a une première vague qui a commencé fin 2016, en fait, qui était la migration des groupes au départ. Parce qu'avant, il fallait savoir que pour déployer des stratégies, il fallait créer un groupe Intune. Ce groupe, il pouvait se baser lui-même sur des groupes Azure Active Directory, synchronisés ou pas. Et après, donc, on déployait ces stratégies à ces groupes Intune. Donc Microsoft, maintenant, est en train de se débarrasser de ces groupes Intune et de migrer vers des groupes Azure Active Directory. Et donc les stratégies MDM, on va les déployer directement à des groupes Azure Active Directory. Alors ça peut être des groupes d'utilisateurs ou de machines, mais au moins, voilà. On a un seul portail centralisé pour faire tout ça. Donc regardez, si votre tenant n'est pas encore migré, regardez sur le portail Office 365 dans la partie Message Center. Vous avez quand même des alertes et des messages de manière régulière qui vous dit est-ce que votre tenant a été migré ou est-ce que vous en êtes au niveau de la migration. Il faut savoir qu'il y a des tenants qui ne peuvent pas migrer et qui requièrent des remédiations manuelles pour pouvoir migrer vers le nouveau portail et vers la gestion des groupes Azure Active Directory. Donc voilà, normalement, vous êtes alerté si votre tenant est bloqué pour X ou Y raison, parce que vous avez des exceptions sur des groupes ou ce genre de choses. Donc voilà, allez faire un tour dans le Message Center, regardez si votre tenant a migré, s'il n'a pas encore migré. Regardez si vous n'êtes pas bloqué. Et voilà, il y a un petit peu de remédiation à faire pour que la migration se passe sans problème.
Sans problème, ouais, c'est clair. C'est clair.
Moi, j'avais été mis, alors sur mon tenant perso, j'avais été migré par erreur avec les groupes. Bon, voilà, une petite erreur de batch qui s'est glissée. Mais au final, j'ai retrouvé toutes mes infos, j'ai pas eu de soucis, donc ça s'est plutôt bien passé.
Bah, pareil, moi pour les deux miens, pareil, franchement, j'ai rien à dire. Hein. J'ai retrouvé mes groupes, j'ai tout retrouvé, les règles et tout. Donc franchement, ça s'est très très bien passé. Et je vous dis, entre l'ancien portail et le nouveau portail, c'est vraiment le jour et la nuit. Beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus agréable à utiliser. Voilà, donc en fait, pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser Azure, c'est encore, franchement, c'est un rêve parce que du coup, on a l'habitude d'utiliser Azure en utilisant Intune. Voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser SSCM, on lui rajoute Intune, ça change rien pour lui puisqu'il a l'habitude déjà quotidiennement, voilà, de pratiquer en interne. Donc c'est vraiment un gros avantage d'avoir fait ça. Pour toutes les personnes qui utilisent quotidiennement, parce que voilà, c'est très, très, très intuitif.
Ouais. Dans le nouveau portail, il y a aussi la partie MAM qui existe depuis quelques temps maintenant. En fait, c'était la première chose que Microsoft a migré et recréé dans le nouveau portail. Alors avant, on pouvait créer des stratégies MAM dans l'ancien portail Intune. Maintenant, c'est fortement conseillé de créer ces stratégies MAM dans le nouveau portail. Et de toute façon, les stratégies du nouveau portail seront prioritaires par rapport aux stratégies de l'ancien portail. Donc voilà, on commence à voir cette transition qui bascule. Et au final, on a des fonctionnalités maintenant qui doivent être utilisées dans le nouveau portail et plus dans l'ancien. Donc il y a encore cette petite période de coexistence. Il faut quand même se renseigner sur ce qu'on peut faire dans l'ancien, ce qu'on peut faire dans le nouveau. Est-ce que ça marche ou pas? Mais globalement, voilà.
Le delta commence à se réduire, hein, sincèrement. Enfin, moi, je vois avec Azure AD où il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques mois avec Azure AD. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de finaliser mes chapitres pour mon prochain bouquin sur EMS. J'ai tout fait avec le nouveau portail, sincèrement. Voilà, j'ai vraiment traité beaucoup de sujets. Et je suis pas allé une seule fois sur l'ancien portail, j'ai tout fait depuis le nouveau. Donc c'est vrai que ce delta est vraiment en train de se réduire et ça franchement c'est vraiment bien.
Ouais. Il faut savoir qu'avec ce MDM, on a beaucoup parlé d'Android, bon, pas trop de iOS, mais au final c'est la même chose. On peut gérer bien sûr des smartphones, mais on peut aussi gérer des PC. C'est aussi l'avantage principal d'Intune. Et donc on peut gérer des PC Windows et Mac. Alors, on n'a pas forcément les mêmes fonctionnalités des deux côtés. Alors, je vais schématiser de manière classique. On a deux modes pour gérer des PC dans Intune. Alors, je vais parler que des PC Windows. On a l'utilisation d'un agent Intune qu'on va installer sur le poste, qui va nous donner un certain nombre de fonctionnalités. Et à partir de Windows 8.1 et Windows 10, on a ce qu'on appelle un mode MDM. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'installer un agent, on va pouvoir enrôler le poste directement dans les options de Windows pour après lui déployer un certain nombre de stratégies. Alors pour faire simple, parce que voilà, ça fait partie de ce que je fais chez les clients et c'est un tableau Excel complet de fonctionnalités différentes. Ce qu'on peut faire avec l'agent Intune qu'on va installer physiquement, déjà c'est qu'on peut l'installer de Windows 7 à Windows 10, donc ça c'est plutôt bien quand on veut gérer des postes qui ne sont pas compatibles avec le mode MDM. Après, avec cet agent, on va pouvoir gérer l'antivirus Windows Defender ou apporter un antivirus, notamment sur Windows 7 s'il n'est pas inclus. On va pouvoir gérer les mises à jour Windows avec une sorte de WSUS dans le cloud. On va approuver, bloquer les mises à jour en fonction de groupes d'appareils. On va pouvoir, et ça c'est super important, déployer des applications. Et pas que des applications MSI, des applications exe, même des scripts. Voilà, on va pouvoir faire comme on fait en fait de manière classique dans SSM. On fait un package et puis on le déploie sur le poste. Et on a toute une partie inventaire matériel et logiciel qui nous permet aussi de remonter des informations dans la console Intune sur les différents postes. Donc ça, c'est le mode agent Intune. Il est ce qu'il est. Par contre, toutes les stratégies qu'on connaît, qu'on applique de manière classique sur des smartphones, comme un profil Wi-Fi, un profil VPN, un profil de configuration avec un code PIN, complexité de mot de passe, etc., bah on peut pas l'appliquer quand on est en mode agent Intune.
Et après... Alors, tu peux également gérer le... Pardon, je te coupe, Maxime.
Ah, ouais,
tu peux également gérer tout ce qui est antivirus et pare-feu.
Ouais.
Au travers de l'agent.
Ouais, effectivement, ouais, j'ai pas parlé du pare-feu. Pour l'antivirus, ouais, c'est soit tu pilotes Windows Defender, soit tu installes Intune Endpoint Protection, voilà, qui est la même chose que System Center Endpoint Protection, qui est la même chose que Microsoft Security Essential, qui est la même chose que le moteur Windows Defender. Voilà, c'est un moteur commun.
Alors par contre, excuse-moi de te dire, mais tu as oublié un élément essentiel quand même, que tu peux gérer dans Intune, et c'est quand même le Windows Phone. Donc c'était un joke, et bien, un privé de joke.
Là, je parlais vraiment que des PC Windows.
Ah, pardon, ok, c'est pour ça. Non, effectivement. Mais...
Parce que pour moi, les Windows Phone, je les remets dans la partie smart.
Oui, oui, tout à fait. Non, c'était plus une plaisanterie qu'une chose.
10... Non, mais t'inquiète. Ouais, donc ça, c'est le mode agent hein, qu'on va vraiment installer. Et une fois qu'on a installé l'agent, ben, on le pilote de manière SSM très très light.
Ouais,
ouais. Et après, donc, on a à partir du 8.1 et Windows 10. Le mode MDM, et c'est celui que pousse Microsoft, c'est celui qui est le plus intéressant. Pourquoi ? Bah parce qu'on n'a pas besoin d'installer d'agent. Pour enrôler le poste, il suffit d'aller dans les settings et de configurer ce qu'on appelle un compte d'entreprise ou un compte scolaire, compte d'école. Et voilà, on se log avec login mot de passe Azure Active Directory, et notre poste est enrôlé et puis va appliquer toutes les stratégies. Et l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir, comme un smartphone, lui appliquer des stratégies mobiles comme un profil VPN, un profil Wi-Fi, un profil Windows Information Protection. Et on va tirer parti de ce qu'on appelle les CSP. Ça a été introduit par Microsoft. C'est CSP, c'est Configuration Service Provider de mémoire. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est des paramètres qui sont basés sur un standard MDM et qui vont permettre de configurer le poste comme le ferait une GPO. C'est sur un standard qui s'appelle le OMA-DM, qui existe dans, pas que dans Intune, hein, qui, ça existe dans des MDM comme AirWatch, comme Mobile Iron, etc. Et le but, c'est d'aller modifier, configurer le poste comme on le ferait avec une GPO, mais avec un MDM. Et donc, on a toute une documentation Microsoft assez bien faite qui nous dit, bah, voilà quels paramètres il faut mettre en place pour aller, par exemple, configurer la complexité ou activer un code PIN sur la tablette, activer le cycle Current Branch for Business sur Windows 10, activer les mises à jour, l'installation à 3h du mat ou ce genre de choses, quoi. Ce qu'on ferait de manière classique avec des GPO. Donc ça, ça a été introduit dans Windows 10, c'est super utile. Je vous conseille de regarder si vous n'avez pas encore vu ce que c'était. Et donc ça, par contre, ça fonctionne qu'en mode MDM avec Windows 10.
Alors effectivement, je confirme ce que tu dis, Maxime, parce que c'est vrai que enfin, moi, je me suis servi quelques fois, et c'est vrai que bah, quand on n'a pas la fonctionnalité dans Intune et qu'on veut quand même configurer, bah, typiquement en s'appuyant sur ça, on peut aller beaucoup plus loin que les règles d'Intune. Et sincèrement, bah, plusieurs fois, ça m'a quand même sauvé la vie, entre guillemets, dans le sens où j'ai pu appliquer le paramètre que je voulais sur mon device. Donc franchement, je recommande vraiment d'utiliser. C'est assez facile à mettre en place. Et franchement, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec.
Ouais. Alors, ce que certains clients aussi me remontent comme feedback, en gros, c'est avec le client Intune, on peut déployer des applications. Avec le mode MDM, on ne peut pas. Ben, en fait, ce n'est pas totalement vrai. Parce qu'à partir de Windows 10 16.07, donc c'est l'anniversary update, on peut déployer en mode MDM des applications si elles s'installent avec un MSI. Ça ne fonctionne qu'avec un MSI, ça fonctionne qu'avec Windows 10 16.07 et supérieur, bien sûr. Mais on peut maintenant, même en mode MDM, déployer des applications simples sur un poste Windows 10. Ça marche qu'en Windows 10. Mais du coup, ça... Alors, je sais que toutes les applications métiers des entreprises ne sont pas forcément packagées en MSI. Mais pour les applications de base, par exemple, moi, sur ma tablette, j'installe mon Firefox, j'installe mon Chrome avec un MSI. Et au final, j'ai pas besoin de plus pour partir sur ma tablette avec un Windows 10. Mm. Ça, c'est aussi top. Et voilà, je voulais souligner ça. Déploiement des applications, c'est pas une fonctionnalité qui n'existe que dans le client Intune. Après, je pourrais vous partager quelques informations. Alors après, on pourrait faire une session entière hein, sur les différences entre Intune et Windows 10 en mode MDM et en mode managé avec l'agent. Mais regardez, renseignez-vous. Maintenant, c'est vraiment ce qu'on recommande auprès des clients. Au maximum, utiliser les fonctionnalités natives de Windows 10 et éviter de pousser des agents, notamment l'agent Intune, sur les PC de votre entreprise.
C'est clair. Et précisons quand même que tout ce qu'on raconte pour Windows 10 s'applique sur Windows 10 PC et Windows 10 Phone.
Windows 10 mobile.
On a exactement le...
Windows 10 mobile, tout à fait.
On l'utilise tellement peu qu'on oublie son nom.
C'est ça.
Windows 10 mobile.
Mais après, Windows 10 mobile est considéré comme un smartphone. Comme un...
Oui. Donc après, l'agent est le même.
Voilà, il appliquera à peu près les mêmes stratégies qu'un iOS ou qu'un Android. Mais là, c'était vraiment pour parler du PC pur Windows 10.
Alors, enfin, moi, j'ai vu, alors, c'était une démo que j'ai vue, mais je trouvais ça super sympa. C'était, en fait, on envoie un mail à un utilisateur. On veut qu'il enrôle sa tablette, sauf que, bah, il a pas obligatoirement, il sait pas obligatoirement comment faire. Et donc, en fait, on met un lien hypertexte avec une valeur bien particulière, hein, dans le mail, en fait. Et donc, on envoie le mail, et quand on clique sur le mail, l'assistant se lance, l'utilisateur n'a plus qu'à finalement à saisir son login, son mot de passe Office 95, et du coup la tablette s'enrôle au travers de Azure AD Join. Donc je l'ai mis sur mon blog. Pareil, ça reste une fonctionnalité native à Windows 10, hein, Azure AD Join, et je trouve que c'est voilà, la démo était assez sympa parce que du coup, on n'a pas besoin de s'embêter à faire des docs très complètes. Hein, il suffit juste de préparer un mail et de préparer le bon lien hypertexte. J'essaierai de mettre le lien, de fournir le lien en fait de cette démo. Mais c'est vraiment super sympa.
L'Azure AD Join est encore plus simple à utiliser quand il s'agit d'une nouvelle machine. Pour l'Azure AD Join, on est dans un scénario où la machine appartient à l'entreprise et est installée par l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur sort la machine du carton, la démarre.
C'est ça. On est sur des scénarios out of the box, ce qu'on appelle le choose your own device.
Dans le setup, il dit cette machine appartient à mon entreprise, je me log avec mon compte, mon mot de passe, ça fait l'Azure AD Join, ça joint le domaine Azure AD, le domaine entre guillemets, hein, c'est pas du Kerberos, mais c'est du Azure AD, et automatiquement, on peut enchaîner là-dessus automatiquement donc l'enregistrement à Intune ou MDM, quel qu'il soit, en fait, que ce soit Intune ou un autre MDM comme AirWatch qu'on ait enregistré dans l'Azure AD. Et donc, on va descendre les policies de sécurité, les applis, etc., etc. Donc ça, c'est un scénario vraiment intéressant pour le scénario typique hein, que je scénarisais en démo dans des prés. C'était de dire, ben voilà, je suis un commercial, je suis en province ou loin, et j'ai pété mon PC, il me faut un PC tout neuf parce que j'ai ma presse demain. Comment je fais ? Ben, je vais acheter un PC dans la FNAC du coin, et puis, dans le magasin du coin, pardon. Je le démarre, je mets mon nom, mon mot de passe, et 10 minutes après, j'ai mon PC configuré en mode entreprise, parce qu'en même temps, on peut avoir l'upgrade de licence en mode entreprise au niveau de Windows 10. J'ai mon Intune, j'ai mon single sign-on avec Office 365 et donc j'ai mes documents, mon PowerPoint, etc.
Ça, c'est vachement utile et c'est fortement recommandé quand on consomme en fait que des services cloud et notamment les services Office 365 et tous les services SaaS qui sont potentiellement fédérés avec Azure Active Directory.
Ça, oui, c'est
une force indéniable.
Voilà. Surtout que après, tu vas avoir le SSO. En plus, tu auras le SSO, en fait, normalement, quand tu te connectes effectivement avec ton compte, ton compte 65, du coup, tu auras le SSO, utilisateur pour l'utilisateur, il va se connecter, ça va automatiquement se connecter à ses services. Je sais que moi, dans ces cas-là, j'essaie de pousser effectivement l'Azure AD Join parce que c'est tellement pratique pour l'utilisateur et même pour l'admin, parce que derrière, ça veut dire qu'il y a moins d'appels au support.
Ouais. Mais attention au fait que ce doit être une machine qui appartient à l'entreprise parce qu'elle rejoint le...
Tout à fait.
Azure AD. Et on va ouvrir une session avec un compte cloud
d'entreprise.
Azure AD.
Ouais, un compte synchronisé.
Ce qui est différent avec l'environnement personnel où on va par exemple pouvoir faire un Workplace Join ou ajouter un compte d'entreprise à notre compte personnel pour avoir cohabitation des deux environnements, mais en restant dans Windows, dans un compte personnel.
Ouais, effectivement, si on veut un vrai scénario de type Bring Your Own Device avec des PC perso, par exemple, là, on va préférer l'enrôlement directement dans Intune sans passer par Azure AD. Après, l'autre avantage aussi d'exploiter Azure Active Directory, quand on le joint par exemple dans Azure AD Join, par exemple, on se dit j'ai quand même besoin d'accéder à des applications on-prem, des applications d'entreprise qui nécessitent une authentification avec des credentials Windows, par exemple avec une authente Windows intégrée. Et pour ça, on a une solution qui est donc Azure App Proxy et qui nous permet aussi, quand on est connecté, d'aller s'authentifier et d'avoir une sorte de tunnel proxy pour publier notre application on-prem via Azure Active Directory, y accéder depuis n'importe où. Et on va profiter de la pré-authentification Azure Active Directory pour s'authentifier directement dans notre application. Alors ça marche qu'avec les applis web, mais on a un reverse proxy assez puissant pour publier des applications web internes sans forcément déployer ce qu'on déploie de manière classique, soit un reverse proxy, soit des fois d'un WAP, Web Application Proxy de Windows Server. Donc voilà, c'est vachement puissant et on peut aussi se baser sur l'identité Active Directory qui existe. Et même si le poste n'est pas joint à Active Directory, on peut passer par Azure App Proxy pour s'authentifier auprès des applications internes. C'est vachement pratique.
Bon, alors tu dis qu'on ne peut publier que des applications web, c'est vrai, mais ça inclut des choses assez intéressantes comme les work folders.
Oui.
La synchro des dossiers de travail sur les serveurs de fichiers internes. Et donc, ce qui est super intéressant aussi, c'est que il n'y a pas de connexion en entrée vers le réseau interne de l'entreprise.
Ouais,
il n'y a plus
ça,
besoin de faire la DMZ, tout ça, c'est géré dans le cloud. Et ce sont les serveurs qui publient, enfin, ce sont les connecteurs.
Les
connecteurs qu'on installe en interne qui se connectent, eux, vers l'extérieur, vers...
C'est ça. Alors, ça fait une super belle transition avec un truc dont je voulais vous parler aussi. Parfait. Justement, alors, effectivement, c'est un connecteur qu'on va installer sur un Windows Server on-prem. Mm-hmm. Ce serveur, il a juste besoin d'un accès Internet, qu'on va ouvrir de manière très classique dans le proxy.
Il y a deux domaines Microsoft qu'il faut pouvoir joindre par le DNS. Quoi.
Alors justement, pendant un moment, il y avait toute une flopée de ports autres que les ports classiques 80 et 443, notamment pour que le connecteur se mette à jour, le connecteur contacte un certain nombre de services Azure Bus, etc. Maintenant, Microsoft a fait l'effort depuis le 1er juin, dans une nouvelle version du connecteur, de réduire cette plage de port et on peut utiliser un connecteur juste avec le TCP 80, donc HTTP, et TCP 443 HTTPS. Et ça, pour nos amis de la sécurité et nos amis du réseau, ça simplifie vachement les choses, quoi. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de... Si vous avez Azure Active Directory, alors Azure App Proxy est dispo à partir de la version basique, donc on n'a même pas besoin de licence premium pour que ça fonctionne. Donc à partir du moment où vous avez la bonne version d'Azure Active Directory, je vous conseille d'aller voir Azure App Proxy. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est, quand ils le découvrent, c'est la renaissance, quoi. Parce que c'est tellement facile de publier des applications internes sur le web et de s'authentifier dessus que j'ai beaucoup de clients qui ont découvert ça et qui maintenant n'utilisent que ça et ont pu se débarrasser d'Appliance Réseau. Donc voilà.
Donc, si on veut faire du SSO, il faut quand même avoir mis en place un Azure AD Connect.
Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, on va se baser à partir du moment où on a une appli interne qui se base sur de l'authent Windows, c'est qu'on a un AD. Donc, forcément, on va mettre en place cette synchronisation pour garder un lien entre l'identité Active Directory et Azure Active Directory. Par contre, on n'a pas besoin de joindre le poste au domaine. On peut quand même utiliser Azure Active Directory et s'authentifier une première fois dans Azure Active Directory pour accéder à l'application.
Alors par contre, j'ai eu un cas récemment où en fait Donc on met de l'Intune hybride, donc avec SSM et donc derrière une synchro avec Azure AD Connect. Et il s'avère qu'en fait le client ne pouvait pas modifier l'UPNM, parce qu'on, quand on met en place en fait le Azure AD Connect, on doit modifier donc l'attribut UPN, User Principal Name, donc bah, pour transformer de toto.local en toto.fr.
Ouais, ça c'est pour les clients qui n'ont pas fait l'effort d'utiliser un UPN routable.
Tout à fait.
Bah, c'est
tout
souvent le cas, hein, malheureusement. C'est ce qu'on voit souvent. Des points locaux, des points toto, j'ai vu des points n'importe quoi des fois.
C'est ça.
C'est donc... assez impressionnant.
Exactement. Et donc c'est vrai que du coup, on a été obligé d'utiliser un autre attribut qu'on appelle donc le, enfin qui est l'adresse email. Et faut savoir qu'effectivement avec Intune en mode hybride, ce scénario-là n'est pas utilisé, il n'est pas à utiliser, il n'est pas supporté. Donc il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qui se passe, hein, ben, c'est que le PFA qui arrive sur la plateforme SaaS chez Microsoft, dans le data center Microsoft, sauf que la remontée dans SSM ne se fait jamais. Donc pour régler le problème, vu que je ne pouvais pas modifier l'UPN parce qu'il y a une application en interne qui utilisait l'UPN, il a fallu que je fasse un reset de la base du tenant Intune en fait, et que je reste en mode SaaS. Et là effectivement le scénario est supporté, donc on peut s'authentifier avec, à l'aide d'adresse mail, pas d'UPN. Donc si jamais vous avez le cas, attention, utilisez bien l'UPN avec SSM et Intune, sans quoi vous risquez d'aller droit dans le mur. Alors, pas supporté, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que bah, si ça ne marche pas, c'est compliqué.
Donc si ça ne marche, ça veut pas, dire que si ça marche vous, pas, vous appelez Nicolas.
C'est ça. Au 0800, 43 €.
Il y a un truc que j'ai découvert qui a été publié dans la roadmap, et donc c'est disponible depuis début juin. Et ça, c'est vachement pratique. Alors, il faut savoir que quand on veut utiliser Intune, comme tu disais, Nicolas, on a deux modes. Soit on le couple à SSM, soit on l'utilise en mode standalone. Ça, c'est un choix qu'avant, on devait faire une bonne fois pour toutes. Alors, c'est un choix qu'on ne fait pas à la légère, voilà, qui avant, ne pouvait plus être changé. Sauf en appelant le support Microsoft qui demandait de supprimer l'intégralité de ce qui était dans SSM ou dans Intune et qui faisait les opérations manuellement. Depuis le 1er juin, et ça c'est vachement pratique, je l'ai testé pas plus tard qu'hier chez un client, on a la possibilité directement de modifier ce qu'on appelle l'autorité de gestion des périphériques mobiles et de la basculer soit entre SSM, soit en mode standalone. Et tout ça on peut le faire maintenant nous-mêmes depuis la plateforme ou depuis la console SSM. Et ça facilite énormément les choses.
Alors, je crois qu'il y a une version particulière, hein. Je crois que c'est les dernières versions de SSM qui permettent de le faire.
Ouais, tout à fait. Ouais. Il faut être à jour. T'as tout à fait raison. Il faut être à jour côté SSM. Ouais. Il faut être à jour côté SSM. C'est la 17.02 avec. Alors, je sais qu'ils ont pu bien un KB. Il n'y a pas très.
Hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas.
Ouais. Et donc, je vous invite à tester. Alors, bien sûr, il faut que votre plateforme soit à jour. Mais voilà, si vous avez besoin de resetter l'autorité de certification, enfin l'autorité de gestion des périphériques mobiles, l'avantage, c'est que maintenant, vous n'avez plus besoin de tout supprimer, de tout recréer. Vous pouvez basculer de manière plus ou moins simple entre les deux.
Ça n'a pas de prix.
Non, franchement, c'est clair. Mais ils ont, enfin voilà, on a un gros effort qui est fait, hein, sur la partie gestion. Gestion de la mobilité. Microsoft a fait aussi l'effort de s'intégrer avec d'autres MDM, par exemple pour la gestion des identités. Comme tu disais, Pascal, tout à l'heure, si on veut, quand on s'enregistre dans Azure AD, s'enrôler dans un autre MDM que Intune, et ben on peut le faire. En fait, c'est juste des URL indiquées dans les paramètres d'Azure Active Directory. Et donc voilà, on a cette ouverture-là qui est assez sympa. Et si vous ne souhaitez pas utiliser Intune parce que vous avez AirWatch et que toute votre config est sur AirWatch, vous pouvez quand même exploiter la puissance d'Azure Active Directory avec votre MDM. Ah, et puis pas plus tard qu'hier, j'étais chez un client pour faire le comparatif entre les paramètres AirWatch et les paramètres Intune, paramètres MDM, MAM et tout ça. Donc là encore, hein, c'est toute une analyse complète en fonction... et là c'est super important, il faut d'abord identifier, c'est ce que je dis chez tous les clients, identifier d'abord vos besoins avant de comparer des solutions, parce que si vous utilisez des fonctionnalités basiques qu'on retrouve dans n'importe quel MDM, vous n'aurez pas la même comparaison que si vous exploitez toutes les fonctionnalités d'AirWatch comme la conteneurisation, la gestion du contenu, ce genre de choses, quoi. Donc d'abord, identifiez vos use cases. Regardez ensuite, si vous payez déjà une licence EMS, pourquoi pas utiliser Intune, hein, si vous l'avez déjà, et si votre utilisation se borne à quelques fonctionnalités MDM classiques, au moins vous pourrez bénéficier de toute l'intégration avec les autres plateformes cloud et les autres produits Microsoft. Voilà.
Ok, donc Maxime, Nicolas, est-ce qu'on a fait le tour du sujet concernant Intune ?
Bon, on pourrait en parler encore pendant des heures.
Oui,
mais je pense que...
enfin, des heures et des heures, je pense. Surtout que c'est quelque chose qui vit énormément, puisqu'on a des mises à jour fréquemment. C'est très difficile à suivre. Il y a tellement de nouveautés tous les mois, que nouveautés intéressantes en plus. Mais pour moi, oui. En tout cas, pour le sujet qu'on a traité là, oui. Je ne sais pas toi, Maxime, si tu vois d'autres choses.
Non, bon, on vous mettra tous les liens intéressants. Vous avez aussi sur le site de Microsoft chaque mois les releases qui sont faites, les nouveautés, les annonces, que ce soit en mode hybride SCCM Intune ou en mode standalone. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour. C'est toujours bien de se tenir informé et c'est comme ça qu'on découvre des petites fonctionnalités sympas qui peuvent aussi vous faire sauter le pas parce qu'on attendait telle ou telle chose ou que. Comme tu disais, voilà, on a TeamViewer pour Android qui est arrivé. Je pense que ça va peut-être être décisif pour certains clients.
Bien sûr.
Il y a également une nouvelle roadmap Azure, une nouvelle forme de la roadmap Azure qui est en ligne et dans laquelle on peut filtrer sous les nouveautés de Azure AD. Donc on a parlé un peu d'Azure AD, on a parlé beaucoup de Intune. On
parle un peu d'SSM et de Windows 10 aussi.
Oui, parce qu'on aime bien la nostalgie.
En fait, tout est lié hein, quand on... Non, c'est pas la nostalgie. Enfin, il faut se confronter à la réalité qu'on trouve chez les clients sur le terrain, qui est que les clients ont investi quand même une certaine somme d'argent dans des produits robustes, hein, parce que SSM, c'est un produit éprouvé, hein, c'est pas nouveau, c'est un produit qui a fait ses preuves. Et l'avantage, c'est qu'on peut parfois lier le meilleur des deux mondes et avoir un scénario hybride. Et c'est au final ce qu'on retrouve quand même chez beaucoup de clients, sauf s'ils partent de rien. Il faut toujours prendre en compte l'existant et l'infrastructure existante chez les clients.
Et nous-mêmes, d'ailleurs, on utilise encore le Software Center, le client SCCM sur nos postes Windows 10. Donc, effectivement, tu as raison. Écoute, Nicolas... On va te laisser à ta charmante région et passer une bonne soirée.
Merci. merci Pascal.
Au dernier rayon du soleil.
Oui, surtout qu'il a fait une super journée, donc je vais profiter des derniers moments de la journée. Ah. En tout cas, merci pour votre invitation. À bientôt pour d'autres sujets, ou pour Intune d'ailleurs, pour un complément sur Intune. Ce sera avec plaisir.
Et puis au prochain événement, on va se croiser certainement.
Tout à fait. Exactement. Je crois que le prochain, c'est les MS Experience normalement, et j'y serai, donc on se croisera là-bas avec plaisir.
Le 3 et 4 octobre.
Exactement.
2017.
Alors justement, on était une après-midi de préparation avec les partenaires sur l'événement, donc c'est vraiment un sujet du moment, préparation de MS Experience.
C'est un peu tôt pour en parler, des MS Experience, on en parlera dans des prochains épisodes, mais sachez que ça commence à se mettre en place tout doucement. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Qu'il y aura peut-être moins de sessions que d'habitude, mais on sera plus concentré sur certains sujets très, très d'actualité en tout cas.
Toujours sur 2 jours, je pense.
Jours, tout à fait. 3 et 4 octobre. Au Palais des Congrès à Paris, comme d'habitude.
On vous attend nombreux. Vous pouvez déjà vous inscrire hein, si vous souhaitez.
Oui, tout à fait,
c'est ouvert.
La salle est ouverte.
Ok, merci à tous les deux.
Merci à toi, Pascal.
Et puis, bon week-end à ceux qui nous écoutent.
Merci à tous, très bon week-end.
Merci, à vous, bon week-end. Au revoir.